L'Institut Montparnasse, think tank mutualiste dont la vocation est notamment de réfléchir à l'avenir du modèle mutualiste, réalise un podcast intitulé « Bâtissons des futurs solidaires ». Podcast qui invite au fil des épisodes des grands témoins de la mutualité, du monde académique, des penseurs, des politiques français ou internationaux. Aujourd'hui, l'Institut Montparnasse s'intéresse aux tiers-lieux qui, dans les territoires, sont des espaces où s'inventent des solutions concrètes, en hyper-proximité, en réponse aux transitions à mener, économiques, sociales, culturelles, numériques, écologiques, citoyennes. Qui sont ces acteurs en région? Quelles transitions adressent-ils? Quels sont leurs rapports aux citoyens et aux territoires? Pour répondre à cette question, la parole a été donnée à différents acteurs de l'ESS de la Bretagne. Nous les retrouvons dans les épisodes 46, 47, 48 et 49 du podcast « Bâtissons des futurs solidaires ». Léa Gelb, vous êtes chargée d'animation territoriale depuis plus d'un an à la coopérative Idéal. Cette coopérative Idéal est basée entre Nantes et Saint-Nazaire, en milieu rural, et elle a été créée en 1994. Alors Léa, pouvez-vous nous rappeler les objectifs au moment de la création de la coopérative ?
Oui, alors comme le dit très justement l'acronyme IDEAL, donc Initiative et Développement Économique et Animation Locale, la coopérative s'est créée sur le besoin de mutualiser des services pour différentes structures, associations du territoire et participer à développer localement des projets de territoire. Donc ça s'est mis en place dès 1994 avec notamment des structures d'insertion par l'activité économique. Et c'est comme ça que le premier pôle de la coopérative s'est créé. Aujourd'hui, on est à 3 pôles d'activité. Le premier pôle qui est, on parle de gestion et logistique, où en fait, ça va être de l'appui et des services de gestion, donc comptable, administratif, secrétariat, bureau partagé au siège social de la coopérative, mais aussi logistique, parce qu'on a une navette qui permet à nos sociétaires d'être utilisés et de mutualiser les déplacements, en effet, en milieu rural, où la problématique de mobilité est assez importante.
Donc, au tout début, pour résumer, vous étiez plutôt sur des actions d'insertion par l'emploi, on peut le dire comme ça ?
Alors, en fait, c'est un collectif d'acteurs et notamment des associations d'insertion qui ont fait converger des besoins et des envies de faire qui a amené à la création de la coopérative.
Alors, on va voir l'évolution puisque cette coopérative ou cette association a été créée, on l'a dit, hein, il y a déjà pas mal d'années. C'était donc, je le rappelle, en 94. Du coup, de votre point de vue, qu'est-ce qui explique sa longévité ? Parce que 94-2023, on est presque sur la 10e année. Donc, on sait qu'il y a toujours des questions, des aléas, parfois qui peuvent remettre en question ce type de structure. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui a permis à cette coopérative d'évoluer et de tenir déjà depuis 10 ans ?
Alors, je pense qu'il permet une forme de résilience de la coopérative, c'est justement son historique de construction et d'émergence. C'est qu'en fait, c'est vraiment un collectif d'acteurs qui, sur un territoire, a voulu participer à créer des synergies, à dynamiser les projets qu'il mettait en place de façon collective et en coopération. Et donc, la coopérative Idéal part vraiment d'un besoin et d'une envie de faire ensemble de ces acteurs, qui pour moi est l'un des leviers et des enjeux qui fait que la coopérative aujourd'hui continue d'exister. Parce que l'idée des autres services et des activités qu'elle met en place, c'est toujours de partir des besoins du territoire et donc d'une concertation des acteurs qui sont membres de la coopérative, donc les sociétaires, mais également de l'ensemble des autres acteurs du territoire pour mener des projets en coopération et en collectif via la mutualisation de services.
D'accord, on entend bien la notion d'écoute des besoins du territoire et ce qui a sans doute amené à des évolutions dont on va parler. Mais déjà, dans un premier temps, si vous voulez bien nous donner des chiffres.
Alors la coopérative idéale, c'est 153 sociétaires. Personnes physiques et morales avec un tiers de personnes morales. Sur ces personnes morales, donc structures, organisations et notamment de l'ordre de l'économie sociale et solidaire, on a 27 structures qui utilisent les services de la coopérative, que ça soit sur les 3 pôles d'activité de la COP, que sont la gestion et logistique, la formation et l'animation territoriale. Donc 27 structures utilisatrices de services. Et c'est aujourd'hui 16 personnes salariées à la coopérative pour l'équivalent de 12 temps plein.
Au fil du temps, la coopérative, qui accueille de nombreuses associations qui œuvrent notamment pour l'insertion par l'activité économique, a obtenu la certification Calliope, ce qui veut dire que les sociétaires peuvent se former et proposer des formations. Comment est venu ce besoin ?
Alors, ce que je disais, donc, la coopérative, c'est un collectif d'acteurs et notamment de structures d'insertion. Et en fait, on s'est rendu compte que ça soit ce type de, d'association ou même en fait n'importe quelle association, elles avaient déjà envie de former les salariés ou leurs bénévoles en interne, mais aussi elles avaient en fait par leur expérience, par leurs compétences, leurs thématiques de travail, développé tout un tas de savoir-faire, de savoir-être qu'elles pouvaient transmettre, donc soit à des pairs sur des thématiques identiques, soit à d'autres structures qui étaient peu ou pas en lien avec, qui n'auraient pas ces compétences. Donc voilà, l'idée que les sociétaires pouvaient bénéficier de formation et être porteurs de formation, avec en effet, donc toujours dans le fil rouge des activités que met en place la coopérative, cette volonté de mutualiser autour d'une certification Calliope, qui est quand même assez lourde à porter de manière administrative et pédagogique. Et la coopérative, du coup, permet d'être un intermédiaire facilitateur pour ces associations sociétaires, pour ces associés coopérateurs, et de soutien dans la mise en place pédagogique et l'ingénierie administrative de ces formations.
La coopérative porte administrativement le PTCE, c'est-à-dire le pôle territorial de coopération économique. Ce PTCE est concentré sur deux filières d'intérêt, l'économie circulaire et agroécologie. Parlons de cette deuxième filière. Quelles sont les actions de formation qui sont menées, par qui, en direction de quel public ?
Dans cette logique de faire participer un ensemble et une diversité de parties prenantes, donc la coopérative héberge le pôle territorial de coopération économique, avec l'un des lieux physiques emblématiques de cette coopération et de cette thématique d'agroécologie qui est le tiers-lieu de la ferme de la Bassiale, dans lequel vivent pas mal de coopérations finalement. On a des partenaires dont une structure d'insertion. On a une association qui s'appelle le Carrefour agroécologique de l'Ouest qui fait de la formation plutôt autour des enjeux de sensibilisation et autour de la permaculture pour les habitants, habitantes, citoyens du territoire qui ont envie de se former. Donc la structure d'insertion, qui est une forme, un dispositif d'accompagnement à part entière, hein, puisque les chantiers apprenants sont des outils pour aider les personnes dans leur processus de retour vers l'emploi. On a également du coup sur ce lieu une plateforme de compostage. Et en fait, l'ensemble de ce lieu a une visée, une portée de sensibilisation et pédagogique autour des questions d'agroécologie et de formation. Donc on a vraiment un volet formation classique professionnelle, mais aussi on a toute une partie de sensibilisation et d'apprentissage par le faire ensemble autour de ce lieu. Après, sur d'autres sociétaires en lien avec le PTCE sur cette filière, on a également d'autres sites dans lesquels la sensibilisation à l'agroécologie et l'alimentation sont intéressants et mis en place.
D'accord. Alors justement, vous parlez des différents lieux. Il en est un qui s'appelle la ferme de l'Abbatiale. Est-ce qu'on peut dire que ce lieu est un lieu d'éducation populaire ?
Oui, complètement. Alors, pour le coup, l'éducation populaire, c'est une notion qui est vraiment dans l'ADN de l'ensemble des sociétaires de la coopérative. Et de manière générale, des structures de l'économie sociale et solidaire, même si je n'ai pas envie de porter leur voix à leur place. Mais en tout cas, dans le champ de l'insertion et des entreprises sociales apprenantes qui sont sociétaires, c'est vraiment l'un des enjeux. Parce qu'encore une fois, l'idée, c'est d'accompagner des personnes qui ont été éloignées durablement de l'emploi via des chantiers apprenants, mais surtout et complètement via des dispositifs d'accompagnement, de formation, de transfert de savoir-faire, de savoir-être. Et c'est là tout l'enjeu pour ces structures.
Quelques exemples concrets, Léa, si vous en avez tout de suite là en tête.
Ça va être justement le fait que les salariés polyvalents, donc les salariés en insertion, vont pouvoir bénéficier de formation pendant leur parcours d'insertion, que ça soit une certification de qualification professionnelle, des formations santé-sécurité. Voilà, c'est tout un tas de formations pour pouvoir sortir aussi avec des compétences certifiantes. Pour revenir sur les aspects d'éducation populaire, je pense qu'il y a aussi le prisme de sensibilisation et de faire en sorte que ce lieu, c'est un lieu qui soit approprié par tous et toutes, On a vraiment un enjeu de
d'ouverture.
Que la population voilà, s'approprie ce lieu, ainsi que l'ensemble des lieux ressources de la coopérative, dans cette logique d'éducation populaire et de transmission de tous les sujets en lien avec la transition écologique et sociale.
Alors, exemple, est-ce que vous travaillez ou vous êtes en lien avec des collégiens, des établissements scolaires ?
Sur le lieu ressource de la ferme de l'Abbatiale, on consolide pas mal le partenariat avec le collège-lycée qui se situe sur la commune de la ferme, et notamment parce qu'en fait, c'est vachement malin en termes de circuits courts, et quand on parle d'alimentation et d'agroécologie, la cantine est approvisionnée en partie par les légumes de la ferme, les déchets sont retournés à la ferme, à la plateforme de compostage, puis ensuite au champ pour la fertilisation. Donc, en fait, on est déjà dans une logique de circuit et d'économie circulaire qui est super intéressante. Et là, tout l'enjeu aussi, bah, c'est de pouvoir valoriser cela, le visibiliser aux habitants pour pouvoir transmettre par la démonstration et par le faire ensemble.
Donc, on est bien sur l'éducation de tous les âges de la vie.
C'est ça.
Merci infiniment, Léa Guel, mais je vous souhaite une bonne continuation.
Merci beaucoup.
Merci infiniment à l'Université de Rennes 2 d'avoir ouvert ses portes à l'Institut Montparnasse. Nous espérons que ce podcast vous a donné de nouvelles clés pour mieux comprendre et imaginer le fonctionnement et les atouts des organisations relevant de l'ESS. Ce podcast est à écouter et réécouter sur le site de l'Institut Montparnasse, sur celui de Podcasters Media, ainsi que sur toutes les plateformes.